Bonjour Véronique Geneste, c'est un plaisir
Bonjour.
D'être avec vous. En plus, on vous connaît sans langue de bois, mais en plus d'être sans langue de bois, vous êtes une des actrices les plus populaires, hein, avec toutes les séries télévisées notamment que vous avez, dans lesquelles on vous a vu. Là, ça va être au théâtre, Véronique, que l'on va vous voir au Palais des Congrès Atlantia de La Baule, dimanche 13 février à 17h, avec cette pièce qui s'appelle
Si on savait,
avec Daniel Russo. C'est intéressant le thème de cette pièce.
Très intéressant, oui, très très. Oh, c'est un thème un peu récurrent. On l'a déjà vu, mais il est bien traité. Oui, c'est un homme qui va arriver au paradis parce qu'il s'est électrocuté et en fait on va lui faire réétudier sa vie. Il va revivre des scènes où il a réagi intempestivement et il va essayer de les revivre. Mais en fait, bon, il est pas forcément tout à fait d'accord avec ça, mais il est bien obligé de les revivre pour essayer de rechanger le cours des choses et arranger certaines choses. Voilà. Il va se rendre compte au fur et à mesure de l'importance d'autres choses. Je vais pas tout dévoiler, mais donc de l'importance de se recentrer sur les choses principales et qu'on aime, quoi. C'est ça le thème, en fait. Et c'est bien, ouais.
Oui, mais alors, c'est un thème philosophique, mais interprété par deux acteurs, deux géants de la comédie aussi. Donc.
Oui, voilà, c'est traité en comédie, et le texte d'ailleurs est très drôle et plutôt fin, c'est-à-dire que c'est un couple qui s'aime. Voilà, lui, il est la télé au paradis, il est avec Jean-Luc Porras, et il y a aussi des moments extrêmement drôles. Mais en fait, oui, c'est traité sous c'est la comédie, les gens rient beaucoup. Oui.
Ça vous est
par la comédie. Par la comédie, on fait passer beaucoup plus de choses, hein, souvent. En riant de soi-même, l'autodérision, et la comédie, on fait passer beaucoup plus de grands mouvements philosophiques, finalement.
Est-ce que ça vous est arrivé à des moments de votre vie, de vous retourner sur quelques années, des décisions que vous avez prises, si je n'avais pas été à tel endroit, si j'avais pas dit oui à telle personne, voilà.
Oh, bien évidemment, ouais, bien évidemment. Et puis finalement, moi, je suis pas dans le passé, moi, je suis pas dans les regrets. Moi, je suis perpétuellement dans l'avenir et surtout dans le moment présent, d'ailleurs. Parce que, justement, pour bien vivre, il faut savoir connaître le passé pour s'en servir. Il faut se projeter dans l'avenir parce qu'on le fait devenir, hein, quand on se projette dedans. Quand on se projette dedans, on le fait arriver. C'est-à-dire on le provoque. Mais pour bien vivre la vie, je pense qu'il faut la vivre totalement dans le moment présent d'abord. Je suis pas quelqu'un qui ait des regrets. Je m'arrange pour pas en avoir. C'est-à-dire que j'assume mes prises de position ou bien mes choix. Parce que en regardant en arrière, quand on fait un choix de vie, il y a toujours les raisons de le faire et c'est pas des excuses qu'on se cherche, c'est que finalement on sait pas du tout ce qui serait arrivé si on avait fait d'autres choix ou si la vie avait fait d'autres choix pour vous. Mais en tous les cas, on a une certaine philosophie de base, on essaye de s'y tenir. Voilà, même ma philosophie, c'est que il faut vivre, il faut travailler, il faut subvenir aux besoins de sa famille, et que la vie vous emmène et qu'il faut suivre la vie. Et des fois, elle ne vous fait pas forcément les propositions dont vous rêviez, mais il faut se débrouiller avec ce qu'elle vous propose. Voilà.
Mais je pense que les personnes qui font des sacrifices en baissant la tête, en se disant « je peux pas le dire parce que si je le pense, mais je peux pas le dire parce que je vais perdre tel contrat », qui se renie en permanence, doivent mettre mal à l'aise quand ils se regardent devant une glace ou être très malheureux après.
Finalement. Oui, alors ils sont malheureux et à mon sens, j'arrive même pas vraiment à les juger, tous ces gens-là, parce que c'est facile quand on rencontre le succès, quand on a les moyens, c'est un peu plus facile d'être indépendant ou de créer son indépendance. Hein. Il faut se la créer, son indépendance. Parce que les gens qui dépendent des autres, ils dépendent des autres. C'est-à-dire que si tout à coup ils se mettent à dos tous les gens dont ils dépendent, et il ne reste plus qu'à mourir ou à changer de voie. Donc je conçois que ce soit très compliqué. Hein. Et après, bon, ben, c'est sûr que c'est moins, c'est des chemins moins bordés de fleurs et de roses, mais c'est plus satisfaisant quand on arrive effectivement à s'organiser pour correspondre à ce qu'on ressent. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu
à se regarder devant une glace, à pouvoir comment.
Ouais, celle qui me battait pour la veuve et l'orphelin. Je prends toujours le parti en fait de celui qui a le moins, voilà, qui est le plus à plaindre. Et là, en ce moment, ben, je trouve que les non-vaccinés, alors que moi je le suis, sont plus à plaindre et donc je me bats pour eux. Voilà. Effectivement, ça m'aide à me regarder dans la glace et à me dire, voilà, tu continues à vivre ce que tu penses, quoi.
Alors, oui, mais vos prises de position, on vous les fait payer, hein, parfois professionnellement, oh. Véronique Jeunesse. Par exemple, il y a ce film avec Marc-Olivier Fogiel, vous dit non.
Oui, non, mais là, c'est autre chose, c'est l'instrumentalisation, ça n'a strictement rien à voir, ça. Parce que moi, j'ai jamais, en plus, la dernière conversation, je suis tombée des nues pour certaines choses. Parce que Marc-Olivier Fogiel, je m'étais pas disputée avec lui, on avait eu une divergence d'opinion qu'on a toujours, mais on s'était compris, on s'était parlé, et son attitude a été complètement absurde. Bon, en fait, j'en attendais pas moins de lui, c'est pas grave. Hein. Et puis, j'en attendais pas moins de lui parce qu'en fait, je pense que c'est plus une envie de qu'on parle du truc, de se mettre en avant et de se faire de la pub que de la vraie acrimonie, surtout que le rôle qu'on m'avait proposé et que je n'avais pas accepté en plus, hein, parce que c'était difficile à accepter justement ce rôle, parce que c'était un petit rôle de la maman, et c'était celle qui justement était celle qui allait se manger toutes les critiques, parce que c'était celle qui allait dans le contresens, qui prenait le contre-pied de tout le monde, c'est-à-dire qui était contre cette GPA, etc. Donc il est évident que, je veux dire, moi je me serais mangé à la sortie du film tous les gens dans le genre qui auraient associé ce rôle à ce que je pouvais être, alors que c'est pas du tout une opinion à l'emporte-pièce, quoi. Donc en fait voilà, c'est plus de l'instrumentalisation, et j'avais pas encore accepté, et quelque part je suis même plutôt contente de ne pas l'avoir fait, parce que c'était 3 jours de tournage, c'est un peu ridicule par rapport à au rôle auquel j'aspire, et voilà. Donc bon, ça avait été France Télé m'avait appelé, fallait l'accepter en catastrophe. Ils sont très très bien conduits, ils ont été formidables, hein. Anne Olmay, ça a été vraiment formidable. Ils avaient un peu peur que j'ai pas envie de me dire de ce film, parce que moi j'ai pas envie de me dire
non,
de ce film.
C'est pas la question. Moi, ce qui m'a surpris, Véronique Jeunesse, c'est que pour moi, un acteur, il joue des rôles même qui lui correspondent pas. C'est un acteur par définition. Si
absolument.
Un acteur, on donne à un acteur le rôle du maréchal Pétain, par exemple, ça veut pas dire qu'il est pétainiste. Il joue simplement le rôle.
Ben non, j'en ai pour preuve que dans La Dame Vizieux, mon ami Cafaro, il a joué un pourri qui était celui qui vendait les enfants juifs. En fait, il l'a accepté alors qu'en fait, il est tout sauf ça, et que ça a été dur pour lui de l'accepter, mais il l'a accepté parce qu'il voulait participer au film, et j'ai trouvé ce geste absolument formidable, et je le remercie puisque c'est un acteur génial. Mais enfin, non, un acteur ne joue pas forcément
évidemment
qui correspondent à ce qu'ils pensent. Bon, ils préfèrent parce que justement les gens identifient beaucoup ce qu'on est et ce qu'on joue, quoi. Et que souvent, dans les rôles, comme Julie, par exemple, j'ai mis une énorme partie de moi, quoi, voilà. Donc, bon, mais vous savez, tout ça, c'est des polémiques. Et aujourd'hui, le monde n'est fait que de polémiques qui n'ont pas grand, grand intérêt. Le vrai intérêt, c'est le débat de fond sur la GPA. Ça, c'est un intérêt. C'est un intérêt avec des gens qui parlent vraiment des choses, des dérives possibles, de ce qu'il faut pas faire. Voilà, c'est formidable quand on a plein de pognon de dire « Ah, c'est génial la GPA », mais il y a plein d'autres solutions pour avoir des enfants, comme mon ami là, qui habite pas loin de chez moi et qui, lui, a opté pour la coparentalité, qui est un truc formidable, parce que les enfants ont un papa et une maman, et que génétiquement, ils ont un papa et une maman. Voilà, après, on n'est pas d'accord avec ça, mais moi, bon, on a le droit d'en discuter, en tous les cas, c'est des opinions, c'est pas…
on n'a plus le droit de discuter en France.
Voilà, il faut avoir le droit de discuter. Absolument.
Parlez-moi de votre école que vous êtes en train de dans laquelle vous
travaillez? Ah oui, mon école. Bon, bah, écoutez, j'ai commencé parce que j'ai très envie depuis longtemps. Hein. Ça, c'est l'envie de transmettre. Parce qu'en fait, il est vrai que j'avais un ami, Moustaki, qui m'a beaucoup aidée quand j'étais jeune. Enfin, qui m'a aidée en me poussant à aller vers. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour que je sois, que je me bouge en donnant des leçons de vie que je trouvais importantes. Et quand plus tard, un jour, je lui ai dit, Jo, comment je pourrais te remercier? Il m'a dit, transmets. La seule chose que je te demande, c'est de transmettre. Renvoie l'ascenseur et transmets. Donc, j'ai toujours eu cette idée de transmission. J'aime transmettre en plus. J'aime les gens, j'aime la rencontre, j'aime faire naître. Je trouve ça ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, ça fait longtemps, hein, j'ai déjà fait hein, ce que j'appelais des laboratoires, parce que j'aime pas l'idée non plus de. J'aime pas l'idée un peu comme celle de professeur, c'est-à-dire j'aime pas cette idée professorale, puisque moi c'est plutôt une idée de partage et de transmission. Donc sans obligation, puisque la devise de mon école, c'est ma méthode, c'est surtout vous aider à trouver la vôtre. Voilà, parce que chacun a sa méthode de travail et qu'il faut arriver à trouver la sienne et à sentir bien vis-à-vis de ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc j'ai monté cette école. Pour l'instant, c'est juste quelques stages que je mets en ligne, qui ne seront pas tous. J'ai mis quelques propositions de dates, je vois où les gens sont disponibles. J'en ferai probablement pas quatre, hein, j'en ferai un ou deux. Je commence doucement et on verra voilà où ça nous amène. Et après, je compte aussi en monter une en Corse, pour peut-être, comme j'ai monté un festival, pouvoir produire ce qu'on fait dans cette école sur une journée de scène, quelque part dans entre Lumio et Cali. Voilà.
J'ai trouvé intéressant ce mariage entre le théâtre et le développement personnel.
Oui, parce que les deux sont, parce qu'en ce moment, moi, je suis en train d'étudier, parce que j'adore étudier, moi, j'étudie tout le temps, et en ce moment, j'étudie quelque chose qu'on appelle les soft skills, parce que j'ai envie de m'attaquer aux entreprises, et qu'en fait, j'ai remarqué, en étudiant les soft skills, que c'était ni plus ni moins ce que les préceptes de l'improvisation qu'on étudie en théâtre. Donc, en fait, c'est mettre en avant plein de choses qui sont, il y en a même un peu plus, mais c'est aider aux gens à mettre en avant ce qu'ils ont comme capacité, je dirais, douce, plus que des vraies capacités techniques. Et aujourd'hui, c'est très important dans les entreprises, dans les engagements. Je sais qu'il y a 20% de personnes qui sont engagées pour leurs capacités techniques. Il y a 80% qui sont engagées pour ces fameuses capacités douces. Donc, il faut les mettre en avant. Il faut savoir les faire ressortir. C'est-à-dire, ça peut être la résilience, c'est-à-dire savoir comment se servir d'un échec pour rebondir, être un leader, à la confiance en soi, la prise de parole et tout ça. Donc, on le fait à travers mon école. Et donc, j'ai pas que des gens qui veulent être comédiens hein, qui viennent. Moi, mes labos, c'était des gens qui avaient envie de passer des examens, de se sentir mieux par rapport dans leur vie, par rapport aux gens qu'ils rencontraient. Voilà, donc c'est plutôt, ça peut être les deux. Mais pour l'instant, voilà, on va faire plus de théâtre parce que les stages, là, c'est sur 2 jours et certains sur 3. Donc, on va faire ça, plus vraiment du théâtre, travail sur des textes et tout, ça va être ludique et très amusant.
C'est très intéressant que vous ayez travaillé sur ce sujet parce que je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que pendant des décennies, les entreprises ou les politiques, les grands chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise ou les politiques ont cherché à recruter des gens très bien formés qui avaient des compétences techniques, mais à casser justement ces autres compétences externes, donc la personnalité, pour faire des gens dociles, qui obéissent et qui ne contestent pas les ordres. On a pendant des décennies, la phrase ne m'appartient pas, donc je la rends à son auteur, c'est Charles Gave qui dit « encourager les crétins surdiplômés ». Et les soft skills, c'est l'inverse. C'est justement pour que les surdiplômés ne soient pas que des crétins.
Oui, alors on leur demande pas non plus de contester les ordres de la hiérarchie, je pense, mais on leur demande en tous les cas de savoir les évaluer, en débattre, de faire des propositions, etc. Voilà. Ah bon, alors moi je trouve que c'est effectivement, ce que je regrette, c'est que ce soit 80% des capacités qui soient, je trouve que c'est très bien que ce soit 50-50 parce que ou même 60 parce qu'en fait On en revient quand même à maintenant à un gros problème qu'on se retrouve, à mon avis, qu'on a retrouvé pour beaucoup d'étudiants en médecine qui se sont retrouvés boulés de leurs études alors qu'en fait ils avaient des grosses capacités, c'est ce qu'on demande quand même aux médecins, et qu'ils ont une question, je crois, à l'oral a été totalement sortie du contexte médical, etc. Et qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés comme ça, sortis de leur cursus, que je trouve absolument regrettable. Absolument regrettable. Donc, je pense qu'on va toujours trop loin dans un sens quand on cherche quelque chose pour finalement après revenir. C'est comme pour tout, hein, que ce soit pour le féminisme, que ce soit pour tous les principes comme ça, les gens vont très très loin dans un sens pour avancer. Et puis après, on revient à une sorte de faut revenir à un truc médium parce que les capacités techniques, ce qu'on appelle les hard skills, c'est quand même aussi extrêmement important et ça ne doit pas 20%, je trouve ça extrêmement peu.
Oui, mais c'est passionnant, qu'on est, vous savez.
Ouais, ça prouve bien qu'on est dans un monde de plus de paroles et de paraître finalement qu'un monde de capacités pures aussi. C'est un peu dommage. Moi, à mon sens, c'est un peu dommage cette proportionnalité entre 20 et 80% quoi de la demande quoi.
Oui, c'est le hasard de cette conversation qui nous ramène vers ce sujet. Vous m'avez dit à un moment, on parlait sauf que oui, il faut pas non plus contester les ordres, faut apprendre simplement à débattre, à faire des propositions.
Voilà.
Mais prenons l'exemple des médecins. Eh ben justement, on leur dit faut pas contester les ordres quand ils veulent débattre ou faire des propositions sur le même sujet d'actualité qu'on évoquait il y a quelques minutes, par exemple celui du vaccin, ils ne peuvent pas débattre, ils ne peuvent pas faire des propositions.
C'est des organismes, qui ont la main mise sur ce qu'ils sont et qui peuvent très bien les radier. Personne n'a envie d'être radié. Et il y en a plein, malheureusement pour eux, qui en font les frais ou qui sont montrés du doigt ou qui sont tout à coup dépréciés par toute une sorte de communauté comme ça qui s'estime tenant d'une vérité absolue. C'est terrible aujourd'hui à quel point ce monde est apte et rapide à vouloir disgracier les gens. C'est grave, je trouve. Donc, il faut être très, très prudent aussi face à tout ça, je pense. C'est important de savoir raison garder, puis de, voilà, le dialogue, la médiation. La science a toujours été quelque chose qui s'est débattu. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes n'ont plus le droit d'en débattre? Je pense que malheureusement, la finance et l'intérêt s'est glissé trop là-dedans et les gens. Et voilà, il y a trop de lobby quoi, en France. Il faudrait que tout ça change.
Oui. Comment voyez-vous cette élection présidentielle? Je vous pose cette question parce que vous êtes aussi une femme engagée.
Je n'ai pas entendu le début de la
Comment question, voyez-vous pas. Cette élection présidentielle, vous qui êtes une femme engagée qui
Je la vois violente, je la vois violente pour l'instant, trop violente, je la vois trop personnelle, trop de personnes se présentent et qui ne fédèrent pas des gens, donc je la vois trop dispersée. Bon, eh ben, ça va peut-être s'organiser. Je vois une bataille d'égo plus qu'une bataille d'idées, souvent. Je vois souvent des gens qui cachent une partie de la réalité pour pas avoir à l'exprimer, et qui est des gens qui sont pas francs et des gens qui, voilà. Donc, les débats et tout ça va peut-être servir à faire ressurgir quand même qui sont exactement, et quel est exactement le programme de chacun. Voilà, je lis beaucoup en ce moment, je lis les programmes, je me pose beaucoup de questions, j'ai pas fait de choix encore, j'ai des idées. Oui, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui m'ont déçu. Moi, Pécresse m'a déçu par sa position, ne serait-ce qu'elle a pris sur les non-vaccinés. Je trouve qu'on peut pas avoir des positions comme ça, personnellement. Hein. Elle est en train apparemment de faire un revirement, nous verrons. Je trouve qu'on diabolise trop. On est dans un monde aussi où on diabolise trop les gens et que, en ce moment, en diabolisant certains, on essaye d'en dédiaboliser d'autres. Donc Mélenchon, tout à coup, est devenu politiquement correct. Marine Le Pen aussi, tout à coup, tout ça est très bizarre. Je trouve que, alors qu'en fait, dans les paroles, finalement, on se rend compte que, bon, et dans les gens qui suivent, que c'est à peu près bonnet blanc et blanc bonnet. Moi, je suis un petit peu en observation et triste de voir à quel point les gens se laissent embarquer dans toutes ces voilà, dans toutes ces diabolisations, dans toute cette bataille de mots, fasciste, voilà, c'est très étonnant, quoi. Racisme. Tout finit par perdre son sens.
Parce que les faibles.
Tellement de mots que tout finit par perdre son sens.
Parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune culture générale, qui n'ont aucun argument et qui sont faibles. Donc quand on se retrouve à ce niveau de faiblesse intellectuelle, la seule réaction que l'on peut avoir, c'est de lancer un anathème contre l'autre.
Raciste, voilà, fasciste. Et la peur, alors, dirigé par la peur. Et puis il y a aussi, on lit beaucoup de choses, il y a des fake news, effectivement, il y a des choses qui sont juste sorties de leur contexte et qu'on balance comme ça, ou alors des choses qu'on rebalance en changeant les dates d'actualisation, donc les gens peuvent pas voir que c'est un vieux truc. Enfin, bon, les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à ça. Et voilà, c'est des camps contre camps, juste pour des idées. J'ai du mal souvent à comprendre pourquoi on veut absolument faire des polémiques de tout, alors qu'il suffit simplement de parler. Donc tout est polémique.
Parce qu'on comprend plus la langue française, souvent. Même vous, quand vous exprimez parfois, j'ai entendu vos propos avec des nuances qui ne reflétaient pas totalement une position, qui était un peu mitigée, et on l'a caricaturée. Ça vous est arrivé?
Bien sûr. Mais on est dans un monde de caricature et un monde de diabolisation. La caricature aide à la diabolisation, de toute façon. Donc, si on arrive à diaboliser pour quelqu'un, ah non, celle-là faut pas, ou celui-là faut pas parce que c'est un fou, parce que c'est un... On diabolise les gens, parce que... Et on les diabolise en se dissimulant derrière une sorte de respectabilité complètement fausse et avec des fondements totalement erronés, et en ce moment comme celle de « Ah oui, non mais tu te rends compte, c'est irresponsable d'être contre le pass sanitaire parce que ça protège les autres. » Or, toutes les études tentent à prouver aujourd'hui que ça ne protège personne et que peut-être ça raccourcit le temps de portance du virus, mais que ça ne diminue pas le fait de le transmettre, la transmission. Même en pourcentage de tout ça, tout est faux. Donc en fait, on est là.
Ça l'amplifie même, puisque beaucoup de vaccinés se pensent protégés. Donc ils disent maintenant, on va se faire la bise. Ils disent non, je suis vacciné aussi, mais on va pas se faire la bise. C'est contagieux encore. Protégeons-nous.
Oui, c'est vrai que quand il y a eu H1N1, je me rappelle, quand il y a eu cette crise de H1N1, nous, sur Gilles Lescaut, on avait décidé, comme seul geste barrière que je trouvais intéressant, on était souvent malades, et quand un était malade, toute l'équipe et tous les acteurs étaient malades. Donc, c'est pénible de tourner quand on est malade, et pourtant, on continue à tourner. Et moi, ça se porte tout de suite sur la voix quand j'ai une angine ou quelque chose, je me fais des extinctions de voix et des trucs. Donc, en fait, on avait dit, écoute, c'est pas compliqué, on arrête de s'embrasser le matin, on arrête de se serrer la main et on a mis du gel et on se lavait les mains. On a tous arrêté de se transmettre des trucs. Voilà, simplement en faisant ça. Et on avait pris l'exemple sur les Anglais qui étaient beaucoup plus distants et qui finalement, eux, étaient moins tactiles que nous. Et donc finalement, il y avait moins d'épidémies souvent chez eux, etc. Donc on avait pris cet exemple-là, ça avait très bien marché. Je pense que c'est une règle, effectivement, qu'on peut suivre. Ça n'empêche pas de s'embrasser en famille, je veux dire. Mais je parle de multiplier les embrassades. Multiplier les bonjours, les bises. Voilà, on n'est pas obligé de s'embrasser comme ça.
C'est méditerranéen.
Pour se dire bonjour. Voilà, c'est tactile, méditerranéen. Mais en été, moi, je recommençais. Hein, je le faisais en été. Moi, je parlais de ça dans les périodes où les épidémies étaient plus virulentes, les périodes hivernales. Mais en été, ça ne nous empêchait pas de continuer. Hein. Voilà. Donc, en fait, je crois qu'il faut savoir faire la part des choses aussi. On est dans un monde totalement manichéen. Il faut tout, c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas, il n'y a plus de nuances. Moi, ça me terrifie.
J'ai une dernière question et on va reboucler la boucle avec la pièce de théâtre, Véronique Jolie.
Ah oui, c'est un beau sujet.
Question presque philosophique. D'ailleurs, tout est lié dans ma dernière question. Le thème de cette pièce de théâtre, si on savait, donc c'est cet homme qui se retrouve au paradis, il se pose des questions sur le bilan de sa vie, ce qu'il aurait changé, si c'était à refaire. Ouais. Imaginons que l'on passe notre vie maintenant, les prochaines décennies, à se méfier de l'autre, à se protéger, à se tester, à se confiner, à rester chez soi. Bref, notre seul objectif de vie serait de rester en vie. Mais on ne vit plus. On reste en vie, mais on ne vit plus, on ne sort plus. Cet homme meurt, il se dit « J'ai passé 15 ans à me protéger pour rester en vie, mais qu'avez-vous fait de votre vie ?»
Rien. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire qui résume un peu ce truc-là. C'est un monsieur qui va chez le médecin et le médecin lui apprend il va voir le médecin, il lui dit, mais docteur, comment je peux faire pour vivre bien, vieux et bien et tout ça. Mais le médecin, il dit, écoute, c'est pas compliqué, hein. Faut arrêter de boire, arrêter de manger du sucre, manger du gras, arrêter de trop faire l'amour, arrêter de sortir, arrêter de faire du sport dangereux, Et le mec, il lui dit, et là, vous pouvez m'assurer que je vais vivre beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite. Il fait, non, mais je peux vous assurer que ça va vous sembler beaucoup plus long.
C'est un peu ce qui vous correspond, non? C'est votre philosophie.
Voilà.
Non?
Vous êtes d'accord? Bah oui, évidemment. Moi, je suis d'accord avec la philosophie. Je suis pas pour brûler la vie par les deux bouts, parce que quand on a les responsabilités d'enfants qu'on a mis au monde, on espère rester près d'eux et de les emmener sur le chemin de la vie le plus longtemps possible. Mais je suis pas pour l'éternité, je suis pas pour la vie éternelle. Je ne suis pas pour prolonger la vie à tout prix.
De toute façon, vous l'aurez quand même, la vie éternelle,
Véronique. Oui. On espère tous l'avoir un petit peu. Mais moi, je suis pas pour prolonger la vie à tout prix. Moi, je serais même pour avoir le droit de choisir sa fin de vie, comme dans plein de pays, quand on souffre trop. J'ai une amie belge qui avait un cancer. Quand j'en ai sorti une première fois, puis ça a réitéré, puis finalement, à la fin, elle était dans de telles souffrances qu'elle a persuadé ses enfants et son mari, et qu'elle était belge, elle avait de la chance, et elle a choisi sa fin. Et elle est partie sereine, avec des enfants qui aujourd'hui, ont vraiment bouclé la boucle avec leur mère, avec un mari qu'elle a pratiquement obligé à continuer à vivre sa vie. Et finalement, mais je trouve que c'est une belle vie. Et quand on pense à elle, on y pense souvent et c'est un bel exemple de vie. Voilà, donc je suis plutôt pour ça, pour pouvoir mourir dans la dignité et pas pour prolonger à tout prix la vie de gens dans la souffrance. On doit avoir le droit de choisir de s'en aller. Voilà. C'est tout. Et en même temps, je pense que quand on est, la seule chose qu'on sait, c'est qu'un jour on va mourir et que donc entre ces deux moments-là, comme on n'est pas censé savoir le moment où ça va arriver, il faut en profiter. Il faut pas se mettre en pause sanitaire pour éviter de mourir de vivre. Voilà, voilà. Vivons à en mourir, mais arrêtons de mourir de vivre.
C'est un débat bien complexe parce que beaucoup de gens sont aussi tentés de penser comme vous. Et puis parfois, on a des témoignages différents, on a des livres de spiritualité, etc. C'est un débat, je pense, que personne n'est capable de trancher sur.
C'est une opinion, c'est un débat d'opinion.
Très compliqué.
C'est un débat d'opinion, en tous les cas. Mais la seule chose dont on ne peut pas débattre, c'est « je nais et je meurs ».
Oui.
Voilà. La seule conception dont on débat, c'est qu'est-ce qui peut se passer entre les deux. Et ça, c'est chacun sa conception. Il y en a qui préfèrent ne pas vivre pour pas mourir. Et il y en a qui préfèrent vivre quitte à en mourir.
Mais mourront quand même, qui se rassurent. Hein.
Voilà. Mais ils mourront quand même. Mais bon, ils n'auront pas eu la même qualité de vie au milieu. Mais peut-être que pour eux, cette non-qualité, c'en est une. Donc, on ne peut pas, on peut pas obliger le monde. Mais par contre, on ne peut pas obliger le monde à se plier à sa propre volonté. On doit laisser les gens libres du choix. Et moi, c'est ça plutôt, je trouve, le vrai débat. C'est libre du choix de sa vie. Alors après, on va dire, oui, mais tu te rends compte, tu es libre de ton choix, mais en faisant ça, tu vas, les pauvres qui, médecins, etc., ben écoutez, les enfants, je ne sais pas, moi, ça fait 2 ans qu'on aurait pu créer des postes, créer des lits pour une pandémie qui, de toute façon, diminue, s'arrête. Donc tout ça, ça fait des 20 ans qu'on dit qu'on est en surcharge hospitalière. Donc, je veux dire, il y a peut-être un autre moyen, et pour ne pas pour 2000 personnes obliger 68 millions à subir des exactions parce que de toute façon les exactions seront pour tout le monde puisque au bout d'un moment ceux qui on vous fera pas prendre une dose de plus donc c'est une sorte de voilà c'est un truc qui est complètement fou quoi et si ça s'arrête au pass sanitaire au pass vaccinal et que c'est pas une obligation tout à coup d'un pass pour ci pour ça j'en sais rien
un contrôle social à la chinoise hein, comme le redoute
fait,
ah oui des gens
peur,
très sérieux redoutent cela hein.
Bien
des
sûr,
gens très sérieux qui sont à la CNIL, etc. Hein, sont pas des
bien sûr, tout le monde, il y en a beaucoup qui redoutent ça. Mais c'est pas des complots, il faut arrêter de parler de complots. C'est des gens qui se disent, mais pourquoi on fait ça? Et quand on commence à se poser la question de pourquoi, on cherche des raisons. Voilà. On cherche des raisons. Jésus, donc c'est tout. Donc pour aider les gens à ne pas, pas avoir de doute, il faut donner des raisons. Et quand les raisons ne sont pas valables, on continue à avoir des doutes et on continue à chercher les raisons de ces doutes.
Et quand on pose des questions, pour rassurer les gens, il faut débattre, il faut les écouter, plutôt que de clore le débat en disant vous n'êtes pas dans le bon camp, vous êtes des tarés, de
voilà, complotistes. Ce sont les doutes qui créent le complotisme. Exactement. Et pas les complotistes qui créent les doutes. Donc il faut arrêter. Je veux dire qu'ils répondent à ces doutes. Et ils n'y répondent pas. Ils y répondent par des obligations et
ou
de la
par des anathèmes.
Voilà.
Si on Véronique Genest, le public de la boule de la Presqu'île va avoir le plaisir de vous voir donc au Palais des Congrès Atlantia dimanche 13 février.
En tous les cas, ça va être un espace de rire.
Voilà. Alors évidemment, hein, pour vous assister à la pièce, hein, pour rentrer, il y a le pass vaccinal. Mais là, c'est pas une décision de Véronique Genest. Ça, c'est la loi française.
Non, bah non. Ouais. Hein. Non, bah non. Moi, je les accepterai bientôt, ça. Franchement, moi, puis je suis sûr, puis sans aucune crainte et sans aucune peur. Hein.
Bah oui, puisque vous êtes vacciné en plus. Voilà.
Voilà, voilà. Et donc tout le monde, voilà. Tout le monde serait le bienvenu. Je trouve ça tellement absurde. Mais bon, écoutez, c'est la vie. On va s'arranger pour que ça ne perdure pas. Et voilà, il faut s'arranger. Il faut bien voter, c'est tout.
Ouh là 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 là.
Il faut que les gens se mobilisent en tous les cas. Ouais. Dire, c'est une année où il faut absolument que les gens se mobilisent, qu'ils lisent bien tous les programmes, qu'ils aillent bien en connaissance de cause par rapport à un avenir pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Voilà.
Merci c'est Véronique.
Comme ça. Et surtout, gardons des espaces de rire. Moi, je conseille de rire au moins une demi-heure par jour. C'est extrêmement bon pour la santé. Et il faut continuer à rire. Il faut continuer.
Merci Véronique. Voilà. Voilà. À bientôt et à la boule, donc le 13 février à Atlantia. Véronique Genest.
Merci beaucoup.
Était donc mon invitée.